be or not to be. Not to be.
Eh bien, ça y est. C'est la dernière de Blockbuster. Après-demain, je prendrai l'avion pour la Nouvelle-Calédonie pour jouer pendant 3 jours aux côtés de Guillaume Meurice et de Manu Pratt, deux humoristes que j'adore. Sur scène, on parlera sûrement du président jupitérien, de la gauche, de la droite, et on tâchera d'en rire, comme je le fais sur scène depuis maintenant plus de 10 ans. Pourtant, je n'oublierai pas ce mois de juillet. Ces 20 émissions où la direction de France Inter m'a donné l'occasion de parler de ce que j'aimais et non plus de ce que je n'aimais pas. Moi qui écoute cette station depuis des années, si vous saviez la fierté qui fut la mienne en entendant le générique de Dragon Ball en version originale à 11h du matin sur cette antenne, un gros kiff. Cette joie que j'ai pu éprouver en partageant avec vous mon amour pour Miyazaki, Friends ou Buffy contre les vampires, parce que c'est ma vie, ma culture, et la culture de beaucoup d'autres vu le nombre de messages positifs que l'on a reçus en réaction à ces thématiques. L'émission a été incroyablement podcastée et croyez bien que je vous en remercie au nom de toute l'équipe. Alors bien sûr, je m'y attendais, on a aussi eu des messages de gens que ce genre de sujet rebute. Pour certains, c'était une émission d'adolescents qui ne parlent qu'entre eux. J'aimerais savoir s'ils ont le même genre de réaction quand on passe une heure à parler d'un spectacle qui se joue 3 fois et uniquement à Paris. Pour d'autres, on ne peut pas assimiler ces thématiques à de la culture. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de petite et de grande culture, juste de la culture. À ces gens-là, je ne dirais qu'une seule chose. Je fais partie d'une communauté, les geeks, où on peut apprécier les estampes de Kusai et prendre son pied en lisant le dernier manga de One Piece. On peut être transporté par une pièce de Joël Pomera et s'évader en jouant à Final Fantasy. Enfin, on peut apprécier le cinéma de Michael Haneke et avoir le sourire aux lèvres en regardant le dernier Spider-Man. Et tenez, ça tombe bien, pour cette dernière émission, on va parler de Marvel.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Just remember, with great power comes great responsibility.
Understood.
En 1961, au sein d'une maison d'édition qui s'appelle Timely Comics, mais qui deviendra bientôt Marvel, Stanley Lieber, plus connu sous le nom de Stan Lee, et Jacob Kurtzberg, alias Jack Kirby, créent la première famille de super-héros, les 4 Fantastiques. La rencontre entre Lee et Kirby est à la bande dessinée américaine ce que la rencontre entre John Lennon et McCartney est à la musique. Les 4 Fantastiques ont pour but de rivaliser avec la Justice League, cette équipe appartenant à la maison d'édition concurrente DC Comics et qui regroupe des poids lourds tels que Batman, Superman et Wonder Woman. Le secret de Stan Lee pour concurrencer efficacement ces derniers, créer des histoires inspirées du soap-opéra et opter pour des héros faillibles, ouais, avec des problèmes. La méthode Marvel est née, l'univers est lancé. Steve Ditko, Joe Simon, John Buscema, Bill Everett, Neil Conan, autant d'auteurs qui ont créé des personnages qui aujourd'hui, dans leurs adaptations cinématographiques, rapportent des milliards de dollars. Pourtant, certains de ces génies ont terminé leur vie dans la plus grande pauvreté et des fois même sans pouvoir s'offrir une mutuelle. Comment l'éditeur de comics Marvel est devenu cette machine de guerre qu'est Marvel Studios ? C'est ce que nous allons voir durant cette heure de Blockbuster. Pour parler de cette mythologie moderne, celle qui est un peu la Black Widow de cette émission, Sophie Hoffman.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Sophie. Alors vous allez parler de qui ce matin ?
Eh bien aujourd'hui, un fan de Marvel qui, comme tous les héros masqués, préfère ne pas dévoiler son identité.
À respecter son désir d'anonymat. Ce matin, 2 experts autour de la table pour nous accompagner. Philippe Gage, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste pour le site Le Point Pop, co-réalisateur du documentaire, formidable documentaire, Marvel Renaissance, et co-fondateur du site Dailymars.
Bravo.
Éric Delbecq, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur de l'ouvrage Les super-héros pour les nuls. Je pense que ça va servir ce matin.
J'espère.
Paru aux éditions First en 2016. Et ensemble, on parlera de la maison d'édition Marvel, de sa création à aujourd'hui. On parlera des auteurs de génie qui ont participé à l'édification de ce panthéon moderne. On évoquera les grands arcs scénaristiques de la maison des idées. Puis on parlera de la crise qu'a connue Marvel et qui a failli la conduire à la banqueroute, de son rachat à la création d'un studio de cinéma aujourd'hui couronné de succès, Marvel Studios. On rappelle aux éditeurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Et oui, grâce au hashtag BlockFI. Et on remercie aussi tous les tweetos qui réagissent et nous envoient plein de messages gentils. Petite nouveauté aussi aujourd'hui pour la dernière, nous avons une page Facebook désormais. Elle s'appelle Blockbuster Frédéric Siglist.
Sur laquelle on pourra retrouver toutes les émissions de Blockbuster, les 20 émissions.
Et toutes les prochaines actualités.
Voilà. Mesdames et messieurs, il est 11h09 et vous écoutez Blockbuster. Cette émission est réalisée par Céline Storm Ila, préparée par Marine Rogue Beccarelli, Jeanne Dazzler Paravert et Chloé Jubilee Brassière. La programmation musicale est signée Elsa Béranger et à la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Grégory Wallon.
Barton, I want you on that roof. Eyes on everything. Call out patterns and strays. Stark, you got the perimeter.
Thor, you gotta try and bottleneck that portal. Slow him down. You got the lightning. And Hulk. Smash.
Alors Philippe Gage et Eric Delbecq, est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots l'histoire de la maison d'édition Marvel ?
Alors Marvel, c'est une toute petite une maison qui est née dans les années 30, toute petite maison d'édition à l'époque. C'était un business quand même très très restreint à l'époque. Elle est restée dans l'ombre d'ailleurs pendant plusieurs décennies de DC qui la précède de quelques années et qui était leader du marché des comics aux États-Unis dès 1938 avec Superman, puis en 39 avec Batman.
Il faut rappeler que les comics, c'est le nom qu'on donne aux bandes dessinées américaines.
Exactement, voilà, ce sont les petits fascicules de 18 à 20 pages voilà, qui sont nés vraiment au début du siècle là-bas. Et l'histoire de Marvel, vraiment, elle a basculé au début des années 60, vous l'avez dit, avec la création des Quatre Fantastiques, qui a été vraiment une cassure très nette dans l'histoire des comics, puisque cette équipe de super-héros est donc une famille dysfonctionnel, qui a des problèmes d'argent, qui n'arrête pas de s'engueuler. Et tout d'un coup, les jeunes lecteurs américains, ils ont découvert des super-héros qui étaient du quotidien, malgré leur hyper-pouvoir, et une équipe et un traitement de l'univers des super-héros entre guillemets réaliste par rapport aux aventures de Batman et Superman qui étaient quand même un peu plus désincarnés, Batman et Superman chez DC. À partir des 4 Fantastiques, Marvel a continué sur une glorieuse décennie dans les années 60 et Stan Lee en effet avec ses dessinateurs stars Jack Kirby notamment et Steve Ditko a poursuivi sur sa lancée avec Spider-Man, les Avengers, Iron Man, Daredevil, Hulk, enfin bon voilà.
Les X-Men
absolument et c'est d'ailleurs dans cette décennie que se sont créés l'essentiel des personnages qui alimentent les films aujourd'hui. C'est assez fascinant. Ils ont vraiment créé, Marvel, un template, comme on dit, une matrice d'un univers interconnecté de super-héros en bande dessinée qui est aujourd'hui le modèle sur lequel Marvel Studio de cinéma s'appuie pour développer sa stratégie au cinéma. Marvel a failli disparaître à plusieurs reprises au cours de son histoire. Il y a eu en effet une très grande quasi-faillite à la fin des années 90, on y reviendra peut-être. Elle a été récupérée par deux génies que personne n'avait vu venir, qui étaient les leaders de la filiale jouée de Marvel à l'époque. Ces deux messieurs ont eu l'intuition vraiment qu'il fallait fusionner Marvel avec le cinéma dans les années à venir pour devenir une...
Mais vous allez bien trop vite.
Oui, pardon.
Calmez-vous. Calme. On vous redonnera la parole.
L'histoire de Marvel, c'est vraiment l'histoire du phénix, quoi. Voilà.
Et alors, la particularité des personnages Marvel, on l'a dit, c'est d'avoir des failles. Et la majeure partie d'entre eux vivent leur pouvoir comme une sorte de malédiction.
Oui, bah c'est le cas de Spider-Man notamment, qui ne cesse de se plaindre finalement d'avoir été piqué par une araignée radioactive à la fin de chacune de ses aventures. C'est le cas de Hulk aussi, Bruce Banner, qui n'a pas voulu du tout avoir les pouvoirs de Hulk et qui vit comme le Dr Jekyll, la malédiction de Hulk, voilà, Dr Jekyll avec Mr Hyde. Donc oui, c'est ça le propre des héros Marvel, c'est de ne pas être forcément fiers de leur pouvoir, mais ils font avec.
Oui, Tony Stark a été victime d'alcoolisme pendant très longtemps.
Exactement, il a sauté involontairement sur une mine qui fait que voilà, ensuite il a dû devenir Iron Man pour sauver son cœur. Voilà, Daredevil, c'est un accident, hein, il voulait pas devenir aveugle à la base, donc voilà, c'est régulièrement involontaire.
D'ailleurs là on fait un petit détour pour dire que l'accident qui a fait perdre la vue à Matt Murdock, donc Daredevil, est aussi l'accident qui a permis la création des Tortues Ninja, et ça souvent les gens l'ignorent.
Et bien heureusement que vous mettez justement le doigt dessus, mon vieux.
Et alors il y a un style Marvel dans l'écriture et la conception des personnages, mais aussi dans la manière de réaliser les histoires. Parce que Stan Lee, en fait, laisse libre champ au dessinateur et rajoute les dialogues ensuite.
Oui, c'est ce qu'on a appelé à l'époque la méthode Marvel. Alors il y a un peu de communication, je pense, autour de ça. Mais oui, globalement, Stan Lee, il donnait une espèce de pitch, de synopsis de l'histoire qu'il voulait développer. Et autour de ce pitch, souvent les dessinateurs brodaient. Et puis il y avait des échanges comme ça en permanence entre le dessinateur et Stan Lee pour la forme finale de l'histoire.
Oui. Et les personnages sont issus aussi des peurs de l'époque. Il y a notamment la peur d'une éclair. Et Eric Delbecq. Hulk, on voit la peur des radiations, les radiations gamma, et les X-Men qui sont carrément nés, qui sont le fruit de la mutation génétique.
Oui, mais de manière générale, d'ailleurs, dans l'histoire de Marvel, il y a bien, on le dit souvent, il y a une succession d'âges. Hein, il y a eu l'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze, sombre, etc. Et c'est totalement corrélé au climat social, à l'ambiance des temps. Donc effectivement, à partir du moment où on a quelques éléments sur le climat politique, social, économique, psychologique de l'époque, on voit absolument se retransmettre ça dans Marvel. Ça a atteint d'ailleurs par ricochet après DC Comics, hein, parce que maintenant l'ensemble quand même des comics et les blockbusters qui en découlent sont vraiment totalement indexés sur l'évolution sociale. Donc effectivement, dans les années 50-60, on voit bien les peurs de l'époque. On voit bien aussi le rapport paradoxal au progrès. Oui. Il y a la peur du nucléaire, mais enfin en même temps, ce qui est vrai dans la science-fiction de l'époque aussi, il y a quand même l'idée que dans le futur, il y a pas mal de questions qui peuvent se résoudre. Moi, j'appelle ça l'ambiance Star Trek. Hein. On se dit toujours que finalement, on va plutôt arriver à résoudre les problèmes que les voir empirer. Et puis ça a changé au fur et à mesure. Dans les années 80, 90 et années 2000, où Marvel, quand même, transmet une ou retranscrit une ambiance du monde qui est pas forcément toujours hyper optimiste et qui est bien évidemment indexé sur les peurs d'aujourd'hui.
Il y a l'Amérique post 11 septembre.
Tout à fait.
Qui a eu un impact très fort sur les comics. Oui.
Alors jamais de manière caricaturale. Un épisode de Spider-Man vraiment mémorable qui a été publié par Marvel peu après le 11 septembre en 2001.
Oui. Jamais de manière caricaturale parce qu'ils arrivent globalement à retransmettre la complexité d'une époque. On aurait pu s'attendre après le 11 septembre, par exemple, à ce que Captain America devienne une espèce de héros pour le coup totalement vengeur et vindicatif par rapport à ce qui était arrivé aux États-Unis. Et en fait, pas du tout, hein, puisqu'on voit notamment dans ce célèbre épisode Captain America prendre la défense d'un jeune d'origine arabe qui est agressé par des Américains qui veulent se venger un peu bêtement. Donc tout ça est un peu plus complexe que ça ne laisse penser.
Alors il est 11h16, hein, nous sommes en compagnie de Philippe Gage et Eric Delbecq et aujourd'hui nous parlons de l'entreprise Marvel. Mais pour l'instant, il est l'heure d'écouter Hooked on a Feeling de Blue Suede. Hooka chaka, hooka, hooka, hooka chaka, hooka, hooka, hooka chaka, hooka, hooka, hooka chaka, hooka, hooka, hooka chaka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. As sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. C'était Blue Suede sur France Inter.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Les Avengers, c'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît?
Oui, je les connais.
On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Mais faisons un appel des troupes. Votre frère, le demi-dieu. Un super soldat, légende vivante presque à la hauteur de sa légende. Un type avec un gigantesque problème caractériel, un couple de tueurs d'élite, et vous, mon grand. Vous avez réussi à contrarier chacun d'entre eux.
C'était mon plan.
Très mauvais plan. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous.
Mais j'ai une armée.
Nous, on a un Hulk.
Alors, est-ce que comme beaucoup de vieux lecteurs de comics, vous avez découvert les œuvres Marvel avec les éditions Lug, Aredi, Artima?
Lug, oui, bien sûr, hein, carrément. Moi, mon premier Strange, c'était en 76, un truc comme ça, Strange numéro 84. Et oui, c'est vraiment les éditions Lug, basées à Lyon, qui ont, je pense, hein, énormément contribué à lancer cette première vague de popularité des héros Marvel en France dans les années 70 et 80. Moi, je fais partie de cette génération-là, en tout cas.
Moi aussi. Avec des planches qui étaient souvent censurées.
Oui, c'est ce qu'on a reproché. Alors, quand j'étais gosse, moi, je me rappelle, on savait pas tout ça, évidemment. D'abord, les super-héros n'étaient absolument pas dans l'air du temps comme aujourd'hui, ni scrutés à la loupe, etc. Et on ne savait pas que Lug censurait certaines planches, adoucissait certains traits un peu trop violents. C'était vraiment à leur corps défendant, les pauvres, parce qu'ils avaient la censure française qui était... Il y avait les autorités à une époque qui avaient déjà fait annuler, supprimer plusieurs revues de Lug au début des années 70. Et depuis, ils étaient vraiment scrutés à la loupe. Et donc, en effet, ils censuraient certains dialogues, ils censuraient certaines planches. Mais nous, quand on était gosses, on ne savait pas tout ça. Et on dégustait tout ça à 100%. C'est après coup, vraiment des années plus tard, qu'en effet, des gens ont découvert qu'entre les comics d'origine et les versions françaises, il y avait quand même de sacrées différences, assez gênantes.
Et vous, Eric Delbecq ?
Oh là là. Alors moi, j'ai découvert les premiers quand j'étais au fond de l'Afrique, à Djibouti, au début des années 80.
Et... C'est génial, ça.
Vous étiez à la recherche du Wakanda.
Eh ben, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs, et je me demande bien où est-ce qu'on l'a caché. Et en fait, vu que j'étais plutôt un gamin par la force des choses solitaire, eh ben effectivement, ces lectures m'ont habité mon imaginaire assez vite. Et alors, une autre chose assez curieuse, j'ai plutôt un tempérament littéraire, et quand je lisais ça, ça me donnait envie d'aller lire de la mythologie, de découvrir tout ce monde antique. Je crois que ça a nourri cette passion-là. Ça a nourri aussi ma passion pour la littérature.
Mais pour beaucoup de monde, c'est un point qui revient souvent.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui simplifient tellement abusivement ce monde-là, alors que quand on commence à rentrer dedans, il est porteur aussi de liens vers toute une culture dite classique. Donc moi, j'ai toujours tendance à penser que les gens qui méprisent ce monde-là ont peut-être pas toutes les clés conceptuelles et culturelles pour en soupçonner la richesse. Alors, la première fois que j'ai dit à quelqu'un, il a assez mal pris.
Mais non, j'étais Là, vous venez de gagner 15 points dans mon estime, c'est un truc de fou.
Je l'ai même pas fait exprès.
Ah non, mais c'est très bien. Alors, comme chaque jour, l'équipe de Blockbuster est allée à la rencontre des gens pour savoir ce qu'ils pensaient de ces super-héros hyper populaires.
Comme tous les garçons, on aime la bagarre, donc il y a de la bagarre, ça sauve les gens, ça fait toujours rêver.
J'adore. Les Marvel, c'est des classiques.
Moi, je suis plutôt plus gros fan de comics.
C'est des films très divertissants, ce qui change beaucoup de leur concurrence. Par exemple, DC Comics, qui cherche des films soi-disant plus profonds.
Il y a moins de blagues, et je trouve que c'est plus mature.
Mais je trouve plus intéressant Marvel que DC.
Je préfère quand même DC, je pense.
Pour moi, c'est la même chose, c'est le même univers, le même monde.
C'est plus fourni chez Marvel que chez DC. Chez DC, c'est plus terre-à-terre que chez Marvel, où il y a peut-être même des personnages beaucoup plus intéressants que chez DC.
Ça reste magique, toujours.
Ah, c'est un univers d'héros, donc ça fait rêver.
J'en entends parler par mes petits-enfants.
Ils ont quand même révolutionné un petit peu le monde du cinéma, avec leurs films. Ils ont quand même fait en sorte de faire plusieurs films qui sont liés et de créer un univers très riche et très important avec tous les personnages.
Ils ont tous un passé assez sombre et pourtant ils sont toujours assez joyeux comparé à DC. C'est attachant, on aime bien.
Ça divertit, je sais pas, ça passe le temps.
C'est pas vraiment l'histoire au final, mais ouais, c'est plus le spectacle, quoi.
Ça nous fait rêver. Pendant un moment, il y a la suspension d'incrédulité. On se dit, voilà, c'est possible, allez, on a envie de voir un super-héros, le cinéma nous le donne.
Alors, on l'a entendu avec ce micro-trottoir, la guerre entre DC Comics et Marvel, et c'est transposé sur grand écran désormais.
Oui. Oui, bien sûr, c'est assez fascinant de voir comment une compétition, une concurrence qui s'est nouée au début du 20e siècle, dans la première moitié du 20e siècle, dans les années 30, a perduré à travers les décennies et aujourd'hui est passée au stade, elle a muté, elle est passée au stade supérieur avec des enjeux industriels bien plus colossaux, stade qui est celui donc de l'industrie cinématographique avec en effet d'un côté Marvel qui a été acheté en en 2009 par Disney. Et face à Marvel, son éternel concurrent DC, qui lui fait partie depuis plus longtemps du studio Warner. Et les deux maisons se font, voilà, continuent leur... C'est pas une guerre, c'est vraiment plus une concurrence, une concurrence plutôt plus ou moins amicale.
Oui, la guerre a plus lieu entre fans. C'est les fans qui sont beaucoup
oui,
plus
irrigants. Oui, c'est ça, exactement. Il y a parfois dans des débats très, très aigus entre est-ce qu'on préfère l'univers Marvel ou l'univers DC. C'est vraiment des questions de sensibilité différentes. Mais les deux sociétés en question, elles sont pas franchement ennemies. Elles dépendent vraiment l'une de l'autre, finalement.
Oui, moi, je...
Qu'est-ce que c'est que ce métal ?
Du vibranium. C'est plus résistant que l'acier et trois fois plus léger. Et il absorbe totalement les vibrations.
Et vous ne le fabriquez pas en série ?
C'est le métal le plus rare sur Terre. Ce que vous tenez là, c'est tout ce qu'on a.
Vous avez terminé, Monsieur Stark. Je crois que le capitaine a d'autres obligations à honorer.
Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, ça a l'air efficace.
Éric Delbecq, qu'est-ce qui explique le succès de ces super-héros, particulièrement aujourd'hui ?
Je pense que c'est un miroir, un reflet de tout ce que nous vivons, pensons, éprouvons, nos craintes et nos aspirations. C'est un décalque permanent de l'histoire de nos sociétés. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas étonnant que la plupart des gens, soit ils reconnaissent quelque chose de leur fantasme, de leur peur très concrète, ou bien aussi parfois de tous les débats un peu plus, un peu plus éthérés. Je constate qu'aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs dans le monde de DC Comics encore plus, il y a même des questionnements métaphysiques, de sens, où est-ce qu'on va, c'est quoi la destinée de l'humanité. Tout ça c'est quand même assez profond et ça aussi ça paraît dedans, on n'est pas simplement sur le reflet des attentes sociétales ou des peurs qui pourraient concerner le monde économique, la géopolitique, tout
ça. Et est-ce que c'est pas justement le manque de perspective d'avenir, l'époque anxiogène, et est-ce que les super-héros n'occupent pas une place qui est laissée vacante par l'éducation civique, la religion et même la politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas admirer un politicien en disant ce mec-là est un héros, il va me porter vers autre chose.
Ah oui, je pense.
On trouve ça, c'est le super-héros.
Oui, je pense que toutes nos attentes ont tendance à venir se cristalliser dans ces personnages-là. Si on parlait un peu en sociologue, on dirait qu'il y a des archétypes très forts. Pour le coup, c'est pour ça que d'ailleurs DC Comics est très complémentaire artistiquement de Marvel, parce qu'il y a beaucoup d'archétypes dans DC Comics. Superman, Batman, Wonder Woman, c'est des archétypes assez incroyables. Ça polarise beaucoup de personnages issus de la littérature classique. Il faut quand même se rendre compte que le Robin des Bois, le roi Arthur, tout ça, c'est des personnages qui viennent s'investir dans les premiers héros de DC Comics. C'est très fort. Donc, bien évidemment que on projette absolument toutes nos attentes là-dedans et que tous nos espoirs déçus s'y cumulent. Moi, je pense qu'il y a un lien très très fort avec la déception de nos contemporains sur l'espace politique et sur la figure, entre guillemets, du chef et du héros. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains un peu snobs intellectuellement ont du mal à analyser ça avec lucidité, parce que bien évidemment que ça met le doigt sur l'échec de toutes nos élites depuis des décennies. Ça c'est capital, c'est un point totalement aveugle de la réflexion, mais je me demande plus pourquoi moi, parce que ça me paraît assez clair. Et relié d'ailleurs dans des commentaires, moi j'essaie de faire ça quand je fais des chroniques des blockbusters Marvel ou DC Comics, c'est mettre ça en lien avec ce que nous vivons politiquement. Et c'est atroce pour nos responsables, tous nos dirigeants depuis des années.
Oui, c'est à charge.
Ah, c'est totalement à charge, parce que toutes les vertus, si vous voulez, on aimerait tous connaître Superman. Bon, et on se rend bien compte qu'on n'en est pas là.
Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi ?
Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire.
Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la bande dessinée américaine, est-ce que vous auriez un arc scénaristique, une saga à découvrir en premier ? Philippe Gage.
Oh là là, oh la question, j'avais pas réfléchi avant.
Ça me laissait quelques instants à moi pour réfléchir.
Moi, mon premier réflexe, ça serait de dire la saga des clones dans Spider-Man, mais je sais qu'en même temps, c'est une saga qui a fait énormément débat, mais moi, j'ai complètement adoré. Un méchant, à un moment, clone décide de cloner Spider-Man, et là, il y a un combat entre le Spider-Man et son clone. On croit que le vrai Spider-Man est tué. On croit que Spider-Man tue son clone, et finalement, on va apprendre des années plus tard que non, c'est en fait le clone qui avait tué Spider-Man. Enfin bon. C'est un truc complètement dingue. Moi, j'adore cet arc-là. Sinon, il y a la saga du Phénix Noir chez les X-Men. Voilà,
plus
Chris Claremont et John Byrne, plus accessible au grand public et bouleversante. Voilà, comme chacun sait.
Rick Delbecq.
Dans les, pas trop anciens, il y a Civil War parce que c'est vraiment capital dans l'opposition de deux Amériques et de deux mondes, entre d'un côté le camp de Iron Man qui est derrière la loi pour le recensement des super-héros et qui globalement incarne une société de surveillance assez rigoureuse, et puis de l'autre le camp de Captain America qui refuse cette loi de recensement et qui est sur la valorisation de libertés beaucoup plus traditionnelles, qui en gros serait du côté de la préservation de la vie privée. Et ça, c'est assez intéressant pour l'analyse de nos sociétés. Et bien évidemment, le camp d'Iron Man, c'est aussi le camp de la technologie de surveillance. Enfin, on peut vraiment mettre tout ça pied à pied ou face à face. Et je crois que c'était quand même assez capital, ce moment-là.
Alors, ça a été un coup médiatique retentissant pour Marvel, hein, à l'époque. C'est une saga qui s'est publiée en 2005-2006, vraiment à fond pendant les années Bush et les années d'intervention en Irak. Enfin, et voilà. Et Captain America, dans cette saga, représente vraiment l'Amérique de Roosevelt et les valeurs de Roosevelt, alors que Iron Man représentait un peu davantage l'Amérique de Bush. Ouais.
D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant sur aussi l'attachement du monde Marvel à une culture contestataire aux États-Unis. Qui va vraiment à l'encontre de l'Amérique officielle. Ça, on oublie toujours un peu ça, et on dit dans les blockbusters, ouais, c'est comme d'habitude, on met en scène les États-Unis. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans les blockbusters Marvel, il y a une capacité à la fois à mettre le drapeau toujours en promotion, tout en critiquant les aspects de l'Amérique qui mériterait d'être réformé.
D'ailleurs, dans des arcs scénaristiques actuels, Trump a été extrêmement critiqué par Marvel, et même les violences policières visant les communautés afro-américaines ont été évoquées via justement le nouveau Captain America, Sam Wilson, qui est noir.
Oui, oui, absolument. Mais Marvel est extrêmement réactif hein, par rapport à l'actualité. Ils l'ont déjà prouvé vraiment à plusieurs reprises depuis 40, 50 ans.
Hein. Bah, autre exemple, Thor, le dieu du tonnerre, qui devient une femme.
Oui.
Hein, donc ça aussi, ça n'a pas traîné.
Alors vous écoutez France Inter, il est 11h31, nous sommes en compagnie de Philippe Gage et Eric Delbecq, et c'est l'heure du questionnaire Redman. Alors Sophie va vous donner des chiffres, mais il y aura trois propositions de réponses. Alors attention, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses.
Allez, on commence avec le 21. Est-ce le nombre de prix reçus par Stan Lee entre 1963 et 2012 ? Est-ce en dollars le prix de rachat des droits par Marvel auprès d'un fan qui a inventé le personnage de Venom, ennemi juré de Spider-Man ? Ou le nombre d'années où Marvel avait les droits sur le mot « zombie » ? À votre avis, le 21.
Oh là là, mais ça, c'est le moment où on se ridiculise. Ouais.
je dirais le premier, mais ouais, alors, vraiment.
Alors, Stan Lee a reçu 22 prix, on y était presque. Pour le.
Bon, mais c'est bon, on a gagné, merci.
Pour le prix de rachat, c'était 220 000 $. Et il s'agit du nombre d'années où Marvel avait les droits sur le mot zombie, puisque entre 1975 et 1996. Et comme c'était trop compliqué à surveiller, eh bien ils ont finalement déposé le mot Marvel Zombies.
Alors il faut préciser que Marvel Zombies, c'est ça qu'on appelle les fans inconditionnels de Marvel.
Ah mais je l'apprends deux fois.
Il y a plein d'infos. On poursuit avec 1972. Est-ce l'année où Marvel crée le premier super-héros noir Black Panther ? Est-ce le nombre de phases aujourd'hui conçues dans l'univers cinématographique de Marvel ? Ou l'année de naissance de Stan Lee, surnommé The Man ? 1972.
L'année de naissance de Stan Lee ?
Non, c'est pas ça, hein, on est d'accord.
C'est pas non plus.
C'est 1922. Voilà, Black Panther, c'est 1966.
Voilà. Ouais.
Bah donc, et donc, le nombre d'univers conçus dans l'univers cinématographique de Marvel.
On est dans la phase 3.
Voilà, c'est ça. Maintenant, on est dans la phase 3.
J'apprends encore quelque chose.
Le 4 maintenant. Est-ce en milliards de dollars le prix de rachat des studios Marvel par Disney en 2009 ? En dollars, les recettes mondiales du premier Avengers, numéro 1 au box-office des films Marvel. Frédéric fait non de la tête. Ou en milliards, toujours le nombre de fois où des gens ont éhontément affirmé que Batman était un super-héros Marvel.
Bon, ça a été facile quand même. Je laisse mon camarade...
La première, exactement. Pour finir, 1939, est-ce le nombre de personnages créés par Marvel pour ses comics, l'année de création de la maison d'édition Marvel par Martin Goodman, ou le nombre de fois où Fred a essayé de se faire piquer par une araignée radioactive ?
Oh ben la 3, bien sûr.
La 2 et la 3. Pour le nombre de personnages, c'est à peu près 5000.
Mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Hein. Eh bien, dans Blockbuster, on gagne des chansons et vous avez gagné Eddie Depreto qui interprète « Faites de trop ».
I'm Groot.
Mm-hmm.
I'm Groot.
Uh-huh.
I'm Groot.
Tu sais... Tu sais, ce soir j'ai vu
tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vive que ivre sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Danse.
C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
C'était Eddy de Préto sur France Inter.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Gage et Éric Delbecq pour parler de l'entreprise Marvel. Dans un instant, nous parlerons de la banqueroute de Marvel et de son rachat et de son aventure cinématographique. Mais pour l'instant, c'est l'heure du portrait de geek par Sophie Hoffman.
Frédéric Sigrist est un héros, super-héros de la pop culture. À 6 ans, il découvre l'univers de Marvel à travers un numéro spécial du magazine Pilote sur Doctor Strange, numéro qu'il relira de nombreuses fois.
Qui êtes-vous dans ce vaste multivers, Monsieur Strange ?
À partir de là, Frédéric se mettra à collectionner les comics Batman, Hercule, Iron Man, Thor, X-Men, Flash, Wonder Woman ou Superman. Ils occupent 3 pièces de son appartement.
Bien joué, petit.
Mais si de tous ces super-héros, il devait y en avoir 2 favoris, pour Frédéric, ce serait Black Panther et Wolverine. 2 figures qui ont accompagné son éveil à la culture.
C'est ce que tu lis sur ton temps libre? Eh oui, Charles, elle est fan des X-Men en plus du reste. Tu le sais que c'est des conneries, non? Enfin, il n'y en a pas un quart qui est vraiment arrivé, et pas de cette façon-là. Dans la vraie vie, on meurt pour de vrai. Et c'est pas un connard égocentrique, avec son collant
Logan
à la con qui va l'empêcher. C'est de la guimauve pour les branlotins.
Logan.
Côté blockbuster, le tout premier film que Frédéric voit sur grand écran sort en 1983.
Il est de retour pour un ultime affrontement avec les forces du mal. Retournez avec lui dans cette lointaine, lointaine galaxie. Le retour du Jedi.
À 12 ans, Frédéric découvre la 5 et l'émission de télévision dédiée au cinéma d'épouvante, Les Accords du Diable.
L'esprit de l'homme est comme l'espace, infini. Les créations de l'homme sont à la mesure de l'immensité de ses rêves. C'est dans ses plus délirantes créations que l'artiste rejoint le bon Dieu de notre enfance, ce vieux truc gentil et barbu qui se cherche des poux dans la barbe.
Il se retrouve alors face à face avec Alien, même pas peur. Il regarde le film jusqu'au bout et ira même jusqu'à créer des scènes inédites dans ses cauchemars. Mais malgré cela, il reviendra inconditionnellement chaque lundi soir. Plus qu'un divertissement, pour Frédéric Sigrist, le blockbuster est un carburant, une dévorante passion faisant crépiter ses pupilles chaque fois qu'est prononcé un nom au pouvoir évocateur.
More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman.
Oui, Frédéric Sigrist est un super-héros. Son costume, un assortiment de chemises aux motifs variés, de Tetris à Pac-Man en passant par Space Invader. Son code moral, donner ses pouvoirs et ses responsabilités à la pop culture. Son équipement exceptionnel, le RERC. Son super-pouvoir peut se fâcher très très fort si vous commencez à dénigrer Terminator. Son identité secrète, super geek. Frédéric Sigrist est une espèce de super-héros à part, qui enchante la vie des gens qu'il côtoie. Drôle, il fait feu de toute situation, s'infiltrant dans la moindre brèche de dérision. Sincère, il est d'un soutien indéfectible pour les gens qui font partie de son cercle réduit. Éminemment passionné, il ne recule devant aucun obstacle et se dit prêt à tout pour honorer la mission qui lui a été confiée. Habitant de la planète Terre, auditeur de France Inter, soyez informés. Super Geek pourrait revenir très prochainement dans vos oreilles, en hiver ou en été.
Ah là 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 là, comment j'enchaîne après ça?
Vous êtes une
petite cachotière, Sophie.
Et oui.
Moi j'attendais Eric, cet homme qui se déguise en super-héros.
Et non, c'était Frédéric.
En fait, la leçon que je tire de ce portrait, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, c'est que je parle vraiment beaucoup trop dans ce bureau.
Et que vous êtes surtout un super geek, on peut le dire.
Oui, c'est vrai.
On a des gros dossiers là.
Mais tout est vrai, tout est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour, parce que tout à l'heure on citait des exemples d'arcs scénaristiques pour les lecteurs qui voudraient s'intéresser aux comics. Moi, je vais citer Born Again de David Muzzeschilli et scénarisé par Frank Miller, qui est vraiment la déconstruction du super-héros, en l'occurrence Daredevil. C'est un arc dans lequel cet homme perd tout, son identité secrète, son cabinet d'avocat, et c'est rythmé, mené avec un scénario mais âpre comme j'en avais rarement vu, et c'est vraiment la saga que j'invite tous les lecteurs à découvrir. Voilà. Donc, je suis un peu ému pour ça. Philippe Gage et Eric Delbecq, comment on est passé d'une entreprise en grande difficulté économique à un, parce que Marvel, on l'a dit, est passé à côté de la banqueroute, à un studio de cinéma qui domine le box-office?
Philippe Gage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire du phénix, vraiment Marvel. Et avant d'arriver à cet immense succès qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu une phase de crise aiguë à la fin des années 90, où en effet, Marvel, qui était à l'époque géré par un tout autre management, a accumulé un montant astronomique de dettes. C'est une entreprise qui a été très mal gérée au fil des années 90. Ils ont fini l'année 96 avec plus de 700 millions de dollars de dettes. Et donc, ils se sont placés en redressement judiciaire. Et pendant cette phase de redressement judiciaire, il y a deux messieurs, Ike Perlmutter et Avi Arad, qui dirigeaient à l'époque la filiale jouée de Marvel qui s'appelait Toy Biz. Et ces messieurs, comme ils étaient persuadés que si Marvel déposait le bilan, et ben leur propre boîte Toy Biz allait déposer le bilan, et que c'était absolument inconcevable de tout perdre, ils se sont lancés à l'assaut de Marvel. Ils se sont dit, tiens, voilà, on est fou, on est dingue, on va monter une OPA sur Marvel, et on va notre petite entreprise Toy Biz va racheter la grosse Marvel. Je vous passe les détails juridico-financiers de toute cette histoire, mais ils sont parvenus à leur fin en 1998, et une fois qu'ils se sont installés à la tête de Marvel, ils ont décidé, et surtout ce monsieur Avi Arad, d'aller frapper à la porte de tous les grands studios hollywoodiens pour vendre les principales licences de Marvel. Et à l'époque, c'était vraiment les deux plus grosses, c'était X-Men et Spider-Man, c'était eux les comics qui vendaient le plus à la fin des années 90. Et donc, sous l'égide de Avi Arad, un premier film X-Men est sorti en 2000.
Réalisé par Bryan Singer,
suivi en 2002 de Spider-Man, produit par Sony, réalisé par Sam Raimi. Détail très important, ces deux films n'ont donc pas été produits par Marvel. Ils ont été sous-traités par Marvel au studio Fox pour X-Men et Sony pour Spider-Man. Et ce sont les deux immenses succès de ces deux films qui ont tout démarré et qui ont apporté énormément de retombées pour Marvel, qui a fini par capitaliser au milieu des années 2000 sur le succès de ses films et monter son propre studio.
Et je résume énormément. Justement, la création de ce studio, Marvel Studios, parce qu'aujourd'hui, c'est des milliards de dollars de recettes, mais initialement, il y a la création d'un studio de cinéma indépendant. À Hollywood, ça n'est jamais vu. C'est-à-dire qu'il faut bien le rappeler aux auditeurs, c'est que Marvel a commencé de manière indépendante à faire du cinéma, avec Iron Man.
Oui, exactement. C'est un vrai coup de poker pour Marvel et pour Avi Arad. Ça a été son dernier baroud de avant qu'il quitte la société, à savoir donc avec Iron Man démarrer la vie du studio Marvel en 2006.
Il y avait un projet, ça consistait à rassembler un jour un groupe de personnes hors du commun pour voir s'ils pourraient faire équipe à notre demande afin de livrer des batailles qu'on ne pourrait remporter seul. C'était le projet Initiative, les Avengers.
Et alors là, on a entendu donc Nick Fury, interprété par Samuel Lee Jackson, qui présente le projet Avengers. C'est un projet Avengers dans la narration du film, mais c'est aussi un projet Avengers en termes de cinéma. C'est-à-dire qu'on assiste à la création d'un univers étendu. Grosso modo, c'est une série où chaque épisode coûte 200 millions de dollars.
Oui, c'est ça. C'est encore une fois, Marvel a décidé de reproduire au cinéma ce qu'ils avaient fait en bande dessinée des années 60, à savoir un univers interconnecté, où en effet, chaque film est finalement le maillon d'une chaîne, comme en effet un super épisode de série télé. C'est encore une fois, j'insiste, c'est un énorme coup de poker que Marvel a fait à l'époque. Avi Arad, avec l'accord avec Permuter, avait décidé de vraiment d'hypothéquer tout Marvel, tout le groupe Marvel Entertainment auprès des banques, et notamment la banque Merrill Lynch, qui a accordé un prêt de 500 millions de dollars à l'époque pour que Marvel puisse faire sortir de terre son studio. Et Marvel, il leur restait plus que Iron Man et les Avengers, vraiment comme super-héros les plus populaires à pousser en avant, puisqu'ils avaient déjà cédé Spider-Man à Sony et X-Men à la Fox. Et à l'époque, on disait, il y avait beaucoup de journalistes à l'époque qui étaient très dubitatifs. Ils se disaient, mais personne ne connaît Iron Man. C'est qui Iron Man? Les Avengers? Mais c'est juste c'est une poignée de geeks qui connaissent les Avengers, c'est une initiative de fou, ça. Et Marvel a réussi son pari avec l'idée de génie de choisir Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, qui a vraiment réussi une connexion immédiate entre Iron Man et le grand public. Et
d'ailleurs,
tout a commencé comme ça.
Ceux qui pensaient que ça ne réussirait pas, c'est justement parce qu'ils n'avaient pas les codes de cet univers-là, qui pensaient que ça allait tomber à plat. Parce que quand on les a et qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut investir dans cet univers Marvel et donc dans les films qui vont en dériver, je dis pas qu'on peut prédire le succès, mais enfin on peut comprendre que dans un Marvel on va avoir à peu près tous les genres représentés. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent de bonnes bagarres, vraiment le gros blockbuster qui envoie du lourd, il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui ont besoin de comédie romantique quelque part, il y a toujours 10 histoires d'amour, il y a de la psychologisation forte des personnages comme on le disait tout à l'heure. Il peut y avoir de la science-fiction, alors pas dans tous les Marvel, mais il peut y en avoir aussi.
De la magie.
Il y a de la magie, Doctor Strange en témoigne. Il y a de l'intrigue policière, polar aussi. Donc il y a un condensé de tous les genres dans un Marvel. Quand on connaît un peu, donc le succès n'est pas si étonnant que ça, et on voit bien qu'il y a une grosse résonance entre ces films-là et notre époque. C'est ça qui, la plupart du temps, passe inaperçu. C'est à quel point ce monde cinématographique, mais comme il l'était sur le monde des comics, représente bien notre réalité.
Et alors, ce qui est très étrange et qui est assez paradoxal, c'est que c'est un modèle que tout le monde mettait en doute et en question initialement, mais après lequel tout le monde court aujourd'hui.
Ouais, et ça c'est justement c'est un petit peu inquiétant justement. Alors c'est fascinant parce qu'on est vraiment face à un changement de paradigme à Hollywood aujourd'hui, où tous les studios veulent absolument mettre en place à marche forcée un univers interconnecté, que ce soit Warner avec ses monstres géants et les propres univers DC, ou même Paramount. Fox avec Alien, Paramount avec les Transformers et la Momie, avec Tom Cruise qui devait être le coup d'envoi d'un film à deux monstres interconnectés. La Momie n'a pas marché. Mais bref, tout le monde n'a que ça en tête en ce moment, Hollywood, copier, dupliquer la recette Marvel.
Et une recette qui, logiquement, doit trouver son apothéose dans la sortie de Avengers Infinity.
Énorme.
Voilà, pour la fin d'année, qui est censée...
Faut que je me calme.
Qui est censée rassembler quand même...
Porter, c'est caché. C'est oui.
Ah, mais je pense qu'on va devoir prendre, on va devoir reprendre tous un petit peu. 68 personnages à l'écran avec un casting, mais de folie. C'est-à-dire Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Hiddleston.
Enfin, c'est Tom Holland qui incarne Spider-Man.
Tom Holland, oui, rien à voir avec l'ancien président. Hein. C'est le jeune garçon qui interprète Spider-Man.
Voilà.
C'est de la folie. Josh Brolin qui incarne la menace qui est apparue dans le premier Avengers de Thanos, c'est quelque chose de gigantesque. Est-ce qu'ils peuvent être à la hauteur des attentes?
Ils n'ont pas intérêt à pas l'être en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Il y a tellement d'enjeux. Alors là vraiment, c'est leur plus. Ouais, je manque de métaphores, mais c'est colossal. Ça va être la plus grosse production Marvel à ce jour. C'est un film en deux parties, hein, donc ça témoigne un peu de l'ampleur du chantier. J'ai envie d'être optimiste, voilà, sur le sujet du résultat.
Ouais, moi aussi. Puis parce qu'en plus, dans ce monde-là, un fan, même quand ça gueule, ça va quand même voir le film et puis ça en parle. Et puis
c'est tellement vrai ce que vous dites.
Ouais, voilà. Donc moi je sais que j'ai eu ce problème avec le dernier Spider-Man, hein. j'ai gueulé puis finalement j'y suis allé, même si j'étais pas très content du résultat.
Ouais, moi non plus.
Voilà, donc globalement je pense qu'il y a pas mal de chances de succès, et d'ailleurs c'est ce qui fait la différence aussi entre ce monde-là et les essais ratés dont parlait tout à l'heure Philippe, c'est que il y a un tel univers cohérent, structuré, riche dans le monde Marvel ou même DC Comics que du coup il n'y a jamais de gros problèmes de cohérence. Alors que ceux qui veulent faire comme si, mais qui derrière n'ont pas toute cette architecture, prennent le risque de se planter. Alors après, je ne dis pas que trop de spin-off tue pas le spin-off, mais enfin, il faut se méfier un peu de ça. C'est une des critiques qu'on peut faire à l'évolution de l'univers DC Comics ces dernières années, c'est que ça devient tellement compliqué entre Renaissance, Rebirth, machin, etc. Ça se perd dans tellement de trucs alternatifs.
Là, on parle de la maison d'édition, hein, c'est-à-dire comics. Pour l'auditeur lambda, il doit se dire, oula, je suis perdu, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est des moments où, en fait, on remet la machine de personnage à zéro. Voilà. On relance les personnages, c'est-à-dire que Batman de nouveau découvre son costume.
Exactement. Il y a un peu moins ça chez Marvel, quoique, mais globalement, la richesse des problématiques, des personnages, des histoires est telle que ça continue à fonctionner.
Mais ça va être fascinant de voir l'avenir de Marvel après Avengers, ouais, justement Infinity War, et comment le studio va réussir à vraiment se projeter, et non pas dans juste les 4-5 années qui viennent, mais vraiment s'établir durablement dans les décennies comme studio viable, arrivant à vivre de son catalogue, quoi.
Alors on va vérifier nos connaissances d'experts sur les musiques de films ou de séries liées au monde incroyable des super-héros. C'est le blind test des experts. Alors, vous allez entendre des musiques de films ou de séries de super-héros. Il va falloir me dire Marvel ou pas Marvel.
On va encore se faire connaître la honte.
Non, je vais vous aider.
Non, mais c'est terrible.
Alors, il tente de protéger un monde qui les craint et les rejette.
Marvel.
Bah voilà, enfin, j'allais dire.
Ah bah oui, bonne réponse.
C'est Régal Dac qui a gagné. C'est un test de rapidité.
Ah, c'est un test de rapidité.
Ah, d'accord, ok.
Donc, c'était bien X-Men. Eric Delbecq, premier point. C'est l'inventeur du détecteur de mensonges qui a créé le personnage.
DC.
Bonne réponse de Philippe Gage et Wonder Woman.
J'ai mon honneur à laver, là.
Alors, une série qu'il faut regarder quand on a vraiment le moral, voilà, où les personnages n'ont pas forcément énormément d'issues. Ils marchent, ils trouvent des gens, des communautés.
Ils ont pas bonne mine.
Walking Dead, non?
Walking Dead! Bonne réponse d'Eric Delbecq.
Alors, j'ai même pas reconnu cette musique là.
Non, mais j'ai quelqu'un de très proche de moi qui m'en parle tout le temps.
Marvel, je veux dire, pardon.
Marvel! Alors, justement, ce sont les victimes de l'explosion de Marvel Studios, parce que désormais il n'y a plus de comics qui traitent de cette équipe. Donc c'est Marvel ou pas Marvel, c'est facile, je viens de donner la réponse.
Marvel,
Marvel.
Là, je voulais pas surfer hontément sur l'indice.
Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, je prends une petite seconde, parce que justement, comme les 4 Fantastiques appartiennent à la Fox qui a gâché la licence...
Quelle tristesse.
Eh bien, comics, qui est donc le premier comic book qui a été lancé par Marvel, n'est plus édité à cause d'histoires de licences cinématographiques.
Au cinéma, c'est vraiment une malédiction. Hein,
c'est un motif de dépression, les 4 F.
Oui, oui, oui. Serrons-nous les coudes, mon vieux.
Oh bon bah là, oui. Marvel,
Marvel. Ah non, pardon.
Mais non,
d'ici. bien sûr.
DC Comics Superman. Avec Superman, bien évidemment, le thème de John Williams.
Inoubliable.
Avec
j'ai les poils à chaque fois.
Non, pareil. Ouais,
c'est clair.
Rhabillez-vous, s'il vous plaît. On appelle ça un héros méta, c'est-à-dire qui casse le quatrième mur.
Petite Paul, hein.
Deadpool, ah, oui, Deadpool. Donc, bravo. Marvel, pas Marvel?
Ah bah oui, bah, Marvel.
Marvel, bien évidemment. Ah, plus compliqué. Parce qu'on on résume souvent le comics au film de super-héros, mais non. Des fois, ça va beaucoup plus loin. Il y a aussi des agents secrets.
Agent du Shield.
Voilà.
Non, pas Marvel. Pas Marvel.
Ah,
c'est.
Si c'est pas Marvel,
le temps est passé, c'est Kingsman. Kingsman de Mark Millar. Mais c'est un comics.
C'est piégeux, là. Pardon. Hein.
Ouais, mais là, c'est.
Son suivant. Le dernier. C'est une série avec un personnage qui dont j'aimerais avoir le pouvoir, qui fait tout très très vite.
Flash, DC.
DC, bah voilà, je vous l'accorde à tous les deux. C'est une bonne réponse et vous avez gagné une nouvelle chanson. Parce que c'est le service public, on peut pas vous donner des gros cadeaux. Ah, vous allez écouter Valérie June qui nous interprète God Soul. C'était Valérie June sur France Inter. Alors, merci à tous. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette émission. Lundi, vous retrouverez le boss Nagui avec des best-of de la bande originale. Je tiens à remercier une fois de plus toute la formidable équipe qui a travaillé avec moi ce mois de juillet dans des conditions pas toujours simples. Hein. Les invités aussi et leur bonne humeur, le service de documentation de Radio France, tous les techniciens qui tiennent le fort cet été et qui font un travail de dingue. Un merci tout particulier à Jean-Baptiste Bussière qui m'a aidé pour ce qui pour moi était ma première expérience d'animation. Merci à lui. Merci à Philippe Gage et à Eric Delbecq pour nous avoir accompagnés pour cette dernière. Je vous en prie. Et surtout, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis, d'avoir réagi sur Twitter ou sur Facebook. Blockbuster reviendra-t-il? Ça, nul ne le sait. Mais en ce qui me concerne, je ne dirais qu'une seule chose, c'était bon le temps que ça a duré. Bonjour Dorothée.
Et bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors de quoi on va parler dans le débat de midi?
Là où on va, on n'a pas besoin de route. On va parler du temps, figurez-vous. Est-ce que c'est possible de voyager dedans? Et accessoirement, est-ce qu'il existe le temps? Pourquoi cette impression diffuse que le temps va de plus en plus vite? J'attends les réactions des auditeurs sur le site. Et pour moi aussi, c'est la dernière parce que Philippe Bertrand reprend le débat de midi à partir de lundi.
C'est tellement émouvant.
Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Puny God.